Je suis reconnaissant de tout ce qui a été donné ce matin. C'est dans la ligne de vraiment ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et la première chose que j'aimerais commencer, c'est un petit jeu. Vous connaissez le Kemosako ? Qui c'est qui a déjà joué au Kemosako ? Personne ! Oh, vous devriez jouer, c'est dommage. Le Kemosako, c'est quand on a une liste de mots, plus farfelus les uns que les autres, qu'on ne connaît pas, mais qui normalement, tous existent. Et le jeu, c'est d'essayer de trouver ou d'inventer une définition du mot et de voir qui c'est qui s'en rapproche le plus. Alors, j'ai un mot à vous proposer. Vous êtes partant ? Le mot, c'est aptérix. Alors aptérix, un aptérix. Si vous savez, s'il vous plaît, dites pas. C'est le copain d'Obélix. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous preniez quelques secondes pour chercher, et ceux qui ont envie, demandent à l'Esprit. Hein, voir si Saint-Esprit dépose quelque chose dans vos cœurs de particulier par rapport à ce mot. Aptérix. Qu'est-ce que c'est qu'un aptérix ? Alors, évidemment, tout le monde sait ce que c'est qu'un astérix, hein, représentant de la race française, qui a besoin de la puissance de l'Esprit dans sa vie, n'est-ce pas ? Mais un aptérix. Un aptérix. Et après, je vous embêterai un peu parce que je ne vous dirai pas tout de suite ce que c'est. Je vous laisserai un peu mariner. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une proposition ? Non. Excellent, mais c'est pas ça.
Didi.
Oh, ça me plaît. Je pense que ça, c'est pas ça, mais ça devrait le devenir. C'est quelqu'un qui est apte à prendre des risques. Ça me plaît énormément. Bon, alors, est-ce que le Saint-Esprit a déposé quelque chose dans les cœurs ? J'aurais bien aimé savoir si quelqu'un reçoit quelque chose de particulier là-dessus. Non ? Ok. Alors, je vais commencer par une histoire. C'est une histoire que j'ai entendue de la part d'Hervé Guiwa, qui est un serviteur de Dieu du Sud-Ouest. Et elle m'a beaucoup parlé. Et c'est l'histoire d'une poule d'eau. Cette poule d'eau, vous savez ce que c'est qu'une poule d'eau ? C'est comme une petite poule avec des très courtes ailes qui l'empêchent de voler. Il va falloir que j'essaie de me retenir, parce que je sens que j'ai envie de pleurer. Elle picore au sol les miettes qu'elle trouve, la petite poule d'eau. Elle essaie de trouver de quoi manger, de quoi vivre. Et un jour, une poule d'eau a couvé un œuf. Elle ne savait pas d'où venait cet œuf. Mais pleine d'esprit de maternité, elle l'a couvé. Et un jour, quelque chose est sorti de cet œuf. Il ne savait pas ce que c'était, mais ce n'était pas une poule d'eau. Et en grandissant, cette petite bébête, elle a appris à se comporter comme la poule d'eau. Elle essayait de picorer. Elle n'avait pas le bon bec, mais elle picorait ce qu'elle pouvait. Elle avait quelque chose qui était différent des autres autour d'elle, et elle essayait de voltiger, de sauter comme elle pouvait. De faire des petits sauts, comme faisait la poule d'eau. Et cet animal a grandi, et c'est devenu un aigle. C'est devenu un aigle qui a continué à picorer. Il a continué à sauter comme il pouvait. Il n'a jamais appris à voler, cet aigle. Il n'a jamais appris à s'envoler. Il ne savait pas qu'il avait des aigles. Il ne savait pas qu'il avait des aigles avec lesquels il pouvait s'envoler, qu'il pouvait voler, tutoyer les cieux. Il ne savait pas qu'il pouvait s'envoler près du soleil et le regarder. Il ne savait pas qu'il pouvait goûter les courants d'air chaud de l'esprit. Il ne savait pas qu'il pouvait s'envoler. Il ne savait pas qu'il pouvait plonger et rattraper des animaux et s'en nourrir. Et il a fait comme la poule d'eau toute sa vie. Il a continué à picorer ce qu'il pouvait et à faire ses petits sauts. Et je crois que cette histoire veut nous parler. N'est-ce pas ? Après ce qu'on a entendu ce matin, je crois que le Seigneur est en train de vérifier, de repasser dans nos rangs et de dire « Tu es un aigle. » Tu es un aigle appelé à voler. Tu es un aigle appelé à vivre de grandes choses. Je reviens à mon aptérix. Qu'est-ce que c'est qu'un aptérix ? Vous voulez le savoir ? Un aptérix, c'est un oiseau qui n'a pas d'aile. Un oiseau qui n'a pas d'aile. De la famille, les kiwis, par exemple. C'est un oiseau qui n'a pas d'aile. C'est encore pire qu'une poule d'eau. Un oiseau qui devrait voler, qui devrait goûter, savoir étendre ses ailes. Et cet oiseau, il n'a rien. Il n'a pas d'aile. Il est aptère, pour ne pas dire à terre. Aptère sans aile. C'est peut-être notre situation. On se sent les ailes coupées. Nous sommes habitués à vivre des miettes de la terre, des pensées de la terre, des raisonnements purement humains, de nos forces humaines, peut-être même de la boue de la terre. Voilà notre quotidien. On n'a jamais goûté autre chose, on ne sait pas de quoi vivre. Mais nous avons été créés pour vivre selon Dieu, selon ses pensées, ses principes et son esprit. Et nous sommes appelés à retrouver ce monde qui est le nôtre. J'aimerais parler de trois animaux dans la Bible, en particulier l'aigle. L'aigle s'élève, il vole très haut, il place son nid sur les hauteurs. Sa vue est perçante, c'est dans Joël 39 qu'on le voit, et même il vole très haut, nous dit Jérémie 49. Il sait rajeunir, le Seigneur le rajeunit. Il s'occupe de ses descendants, pareil à l'aigle qui révèle sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Dieu n'hésite pas à se comparer à l'aigle. Il déploie ses ailes, il nous prend et il nous apprend à voler. Nous sommes sa couvée, nous sommes les petits aiglons. Et on nous a appris à vivre comme des poules d'eau. On n'a pas compris qu'il y avait un aigle autour de nous et qu'il nous appelait à déployer nos ailes et à commencer à voltiger. À commencer à non seulement voltiger, mais à voler. Et pas seulement à voler, mais à goûter les courants ascendants, comme disait Émilie. Parce qu'il y a le Seigneur m'a parlé d'aérodynamique, la dynamique des vents. On va commencer non seulement à savoir qu'il y a du vent, mais à apprendre à goûter la dynamique des vents. Parce que selon les niveaux de hauteur, les vents ne sont pas tous les mêmes. Le vent, la parole de Dieu nous dit, l'homme qui est né de l'esprit, le vent de l'esprit souffle et il va où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il va falloir qu'on commence non seulement à voler, mais à savoir à trouver les courants. Il va falloir que le Seigneur nous apprenne à trouver la bonne hauteur de vent. Parce que selon la hauteur, le Seigneur va nous envoyer dans une direction ou dans une autre. Nous devons commencer à maîtriser les vents, maîtriser les courants. Nous devons devenir des connaisseurs de l'air. Des connaisseurs des vents. Amen. L'aigle, il connaît les vents. Il sait où trouver le bon courant porteur. Il sait, il s'envole. Et vous savez d'ailleurs que pour commencer à voler, qu'est-ce que fait l'aile ? L'aigle, il ne peut pas juste étendre son aile. L'aigle, il faut qu'il appuie. Il faut que son aile se détende et il appuie sur l'air. La dynamique de l'air, c'est comme ça. J'appuie. Et je commence à m'envoler. Et prendre appui sur l'air, c'est prendre appui sur l'esprit. Et je commence à m'envoler. La colombe, elle cherche un lieu de repos. Hein, vous la connaissez, toute cette histoire de la colombe de Noé, qui a cherché son lieu de repos. Elle cherchait un lieu pour poser la plante de ses pieds, elle n'a rien trouvé. Pendant plusieurs fois, et après, finalement, elle a trouvé un lieu. Son lieu. Psaume 55, 6. Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai mon lieu de repos. Nous sommes appelés à être comme des colombes, à déployer nos ailes, à nous envoler et à trouver notre lieu de repos. La colombe a tendance à se cacher quand elle n'est pas dans son colombier, dans son lieu, son habitat normal. Elle gémit à cause de l'angoisse, de l'insécurité, du sentiment que tout est perdu. Si vous regardez les différents passages, plusieurs fois, je gémissais comme la colombe. Parce que la colombe, elle a envie d'être dans son colombier. Et quand elle est partie, elle gémit parce qu'elle n'est pas dans son chez-elle. Elle n'est pas dans son lieu. Et elle goûte à des choses qui ne lui sont pas confortables, qui ne sont pas sa normalité, qui ne sont pas son nid normal. Alors elle cherche, elle gémit. Elle est comme une petite colombe qui voltige là où elle peut. Amen. Et la parole de Dieu, nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance si elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous, Ésaïe 59, 11. Et pourtant, dans Ésaïe 68, la parole de Dieu dit, « Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier ?» Comme des colombes vers leur colombier. C'est le temps pour nous de commencer à nous envoler, de quitter nos lieux habituels de morosité, de tristesse, d'abattement, d'humanité simple, sans la puissance de Dieu, et de retourner vers notre lieu de repos, vers la maison du Père. C'est le moment de déployer nos ailes. Et le Seigneur nous dit, tu es ma colombe dans les cantiques, ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, tu te caches, tu as peur du monde autour de toi, tu as peur de ce qui se trouve, des difficultés de ta vie. Tu te caches dans les parois escarpées. Tu as peur des situations. Tu es dans l'angoisse. Tu te dis, qu'est-ce que va être mon avenir? Qu'est-ce que va être mon lendemain? Que vais-je devenir? Et tu gémis comme la colombe. Et le Seigneur te dit, ma colombe, fais-moi voir ton visage. Fais-moi entendre ta voix. Ta voix est douce. Ton visage est agréable. Le Seigneur te parle de son amour. Il te parle de son affection. Il te dit, je suis là. Je suis avec toi. Et je t'appelle à t'envoler et à retrouver ta maison, la maison de ma présence et de mon amour pour toi. Et non seulement, il dit souvent, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, tu es ma parfaite. Ma parfaite. Pour le Seigneur, nous sommes, c'est parfait. Amen. Et Osée 11:11, ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison. Ils accourront comme des colombes, et je les ferai habiter dans leur maison. Amen. On peut se le répéter, soi-même dans son cœur. Je les ferai habiter dans leur maison. Le Seigneur nous a dit qu'il nous préparait une maison. Il nous prépare une demeure. Et cette maison, elle est pour nous. Nous sommes appelés à découvrir notre maison de plus en plus. La cigogne. Vous connaissez la cigogne? La Bible ne dit pas grand-chose. Il n'y avait pas énormément à dire, mais je sentais que ça restait important. La cigogne, la Bible dit dans Jérémie 8:7, c'est dans les cieux qu'elle connaît sa saison. C'est dans les cieux qu'elle connaît sa saison. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça veut dire que tant que je reste à terre, tant que je reste dans mon habitat dans lequel on m'a toujours élevé, dans lequel j'ai toujours grandi, où j'ai développé mes raisonnements, je me nourris de la poussière de la terre, je ne peux pas connaître mes temps. Je ne peux pas connaître mes saisons. Je ne peux pas reconnaître les temps que Dieu a prévus pour ma vie. Parce que je ne suis pas au bon niveau, tout simplement. Et le Seigneur me dit, déploie tes ailes. Envole-toi comme la cigogne et commence à découvrir les temps de ta vie. Amen. Et c'est rigolo parce que la cigogne, ça se dit chassida. Alors je ne sais pas si Thierry, tu peux m'aider un peu, est-ce que je dis bien? Chassida. Ça vient de chasside, fidèle, aimable, pieux, saint. On est comme la cigogne, elle a quand même comme un représentant de nous, les saints. Et chassida, ça veut dire affectueux. Il y a quelque chose d'affectueux dans la cigogne. Merci Seigneur pour le symbole de l'Alsace. Le Seigneur nous appelle à déployer nos ailes. Alléluia. L'ennemi nous appelle du gibier de potence. Est-ce que vous avez déjà entendu cette parole de l'ennemi? Je veux ta mort. Il t'appelle gibier de potence. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Il veut notre peau, hein, potence. Il veut ta peau et il te tense. Il veut ta mort et il te casse. Il t'appelle son gibier de potence. Il veut te clouer au poteau. Il veut ta destruction et ta perte. Et qu'est-ce que le Seigneur fait dans nos milieux? Vous vous rappelez ce qu'il a fait avec Abraham? Il a pris Abraham et il a soufflé dedans. Et c'est devenu Abraham. Et dans potence, le Seigneur souffle et il envoie son air. Et ça devient de la portance. Et tu es appelé à la portance de l'air. La portance de l'air veut te porter. Et tu as quitté ta potence pour entrer dans la portance. La portance de l'air. L'air de rouar. Le rouar de l'esprit. Le rouar de l'esprit vient dans ta vie. Et vient entre le pot et le temps de l'ennemi. Et fait de toi un aigle. Pour que tu goûtes l'air. Que tu goûtes la puissance de l'air. Un nouvel air. C'est une nouvelle air. Amen. Tu as appelé un changement d'air. Le Seigneur t'appelle, viens prendre l'air avec moi. Viens goûter mon air. Viens goûter mon air, parce que l'air, c'est l'air de l'esprit. L'esprit, c'est souffle. Souffle, un déplacement d'air. C'est un déplacement d'air, l'air qui se déplace. Ce qui fait que tout autour de toi, c'est l'esprit. Alors, oui, j'avais un problème, parce que l'ennemi a appelé le prince de la puissance de l'air. Et j'ai découvert que l'air dont il est question, c'est l'air du bas. C'est l'air lourd et dense du bas. Et alors quand tu restes en bas, comme la poule d'eau ou comme l'aptérix, tu goûtes l'air de l'ennemi. Tu vis de l'air de l'ennemi. Tu es saturé d'un air pollué. Toutes tes pensées sont au niveau de la terre. Et tu es abattu. Tu goûtes la morosité de l'air ambiant. et t'en peux plus. Et c'est lourd. Et le Seigneur te dit, monte. Monte et viens goûter mon air à moi. C'est un air allégé, c'est un air vivifiant, c'est l'air des montagnes, c'est l'air frais de l'esprit. Amen. Le Seigneur va faire de toi un aigle, une colombe qui sait retrouver son colombier, qui sait retrouver sa maison, un aigle qui sait voler et trouver les courants de l'esprit. Alors j'étais reconnaissant au Seigneur, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans ce que j'apportais. Je ne savais pas comment définir les ailes. Et le Seigneur l'a donné à Luc. Vision d'une voile de ton esprit. Des dons que je t'ai donnés. Tout ce qui a voulu te recroqueviller, t'écraser, t'enfermer, c'est brisé. Tout ce qui a voulu faire de toi un aptérix, tout ce qui a voulu faire de toi une poule d'eau, c'est brisé. Tout ce qui a voulu te couper les ailes, c'est brisé. Le Seigneur développe les voiles de l'esprit en toi, ses dons et ses ministères. Amen. Et ce n'est pas fini parce qu'il a dit qu'il voyait un catamaran. Et ça m'a, quand je pensais au message, je pensais à la parole de Claire de la semaine, il y a 2 semaines. Vous voyez, il y a un bateau, je ne sais plus si c'est un catamaran ou un bateau, qui était arrivé à une falaise battue par les flots et ne pouvait, le catamaran ne pouvait plus rien faire. Et d'un coup, elle le voit au-dessus de la falaise. Il a été élevé par la puissance de l'esprit, mis en cale sèche, réparé, restauré. Et finalement, ce bateau est parti comme une flèche dans son ministère. Vous avez déjà vu les catamarans ? J'ai vu ça il y a quelques jours. Ces nouveaux catamarans qui volent sur l'eau, vous avez une petite pointe qui sort de la quille et le bateau soulevé par l'air, il vole presque. C'est presque plus seulement des bateaux, c'est un mélange entre bateau et avion. Il est juste sur la pointe du catamaran, une pointe pas plus large que ça. Et il vole à 80 km/h sur l'eau. Et le Seigneur veut faire de nous des catamarans qui volons sur l'eau à la vitesse de l'esprit. On va changer de dimension. Changement d'air au nom de Jésus. Pierre a marché sur l'eau. Nous allons marcher sur l'air. Nous sommes appelés à quitter la terre et le sol habituel pour rentrer dans des choses qu'on n'a jamais vues. Nous sommes appelés à marcher sur l'air. Et pendant que je pensais ça, j'ai reçu une vidéo d'un site américain, et le gars, la vidéo, elle s'appelait Be a Windwalker. Be a Windwalker. Un marcheur sur l'air. Un marcheur sur l'air. C'est notre appel. Alors bien sûr, nous, on a notre vision, on se regarde et je vois comme mon aptérix. Je vois mon petit kiwi. J'avais envie de préparer la photo, mais j'ai pas, pardon. Je suis ma petite poule d'eau, je picore. J'essaye mes petits sauts. Hein? J'essaie de me débrouiller comme je peux avec les moyens du bord. Et le Seigneur t'a dit, ce n'est plus ça maintenant. C'est le temps de quelque chose de nouveau. Et quand l'ennemi, il veut ta mort, il veut te clouer au poteau, ce n'est pas toi qui l'intéresse. Ce n'est pas ta disparition qui l'intéresse. Quelque part, pour lui, tu ne comptes même pas. Tu n'as pas d'intérêt à ses yeux. Qu'est-ce que l'ennemi ne supporte pas ? C'est la foi que Dieu a fait habiter en toi. Le trésor qui habite en toi, c'est ta foi. Parce que c'est par la foi que l'Esprit vient habiter en toi. C'est par la foi que le Sauveur est venu dans ton cœur. C'est par la foi que tu rentres dans ton héritage. C'est par la foi que tu deviens le héros et que tu agrandis la liste d'Hébreux 11 et que ton nom sera agité à la liste. C'est par la foi. C'est par la foi que tu plais à Dieu. C'est parce que la foi habite dans ton cœur que Dieu raffole de toi. Cette foi qu'il a fait habiter en toi, cette foi qui devient comme une matrice au sein de ton être, ensemencée par le mari divin et qui produit du fruit, un fruit éternel. La foi, ce trésor que le Seigneur a dit, garde ta foi. Je suis l'auteur de ta foi, la source de ta foi, l'apôtre de ta foi, le consommateur, le but, l'accomplissement de ta foi, l'objet de ta foi. Je suis le tout de ta foi. Cette foi que tu as reçue et qui est d'un grand prix, tu as la même foi, tu as une foi, 2 Pierre 1:1, tu as la foi du même prix que les premiers apôtres. Vous avez reçu une foi du même prix que tous les grands hommes de Dieu et les grandes femmes de Dieu. Ta foi est d'un grand prix. Et c'est cette foi que l'ennemi ne peut pas supporter dans ta vie. Parce que cette foi va changer ta vie quand tu vas commencer à la laisser s'exprimer, grandir, déployer ses ailes. On a eu un livre de cantique qu'on a un peu laissé dans la désuétude. Les ailes de la foi, c'est le moment de déployer les ailes de notre foi. Deutéronome 33, 26. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Daniel 7, 13. Sur les nuées des cieux arrivait quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Notre Dieu, notre sauveur, marche sur l'air. Ils sont portés par les nuées. Ils sont portés. Il fait des vents, ses messagers, de ses serviteurs, des flammes de feu. Ils avaient noté, il y a encore, c'est incomplet. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents, ses messagers. Il s'avance sur les ailes du vent. Oh, merci. Excellent. Voilà l'Aptérix, hein. C'est celui-là, le kiwi. Que cela nous marque. Que ça, c'est la vision que l'ennemi veut nous donner. Vito parlait de nos yeux, et c'est exactement ça. La vision que Dieu a mis dans, que l'ennemi a mis dans ta vie, c'est ça. Voilà ce que tu es pour l'ennemi, et surtout voilà ce qu'il veut te faire croire que tu es. Voilà ce qu'il a agi dans ta vie pendant des siècles, parce qu'il a agi déjà dans ta lignée paternelle et maternelle, pour que toi, dans ta vision, ce soit ça. Et le Seigneur veut toucher tes yeux et mettre du collier sur tes yeux afin que tu commences à voir d'un aigle. C'est pour ça que je suis très heureux de le voir, parce que vous compreniez que ça, c'est l'ennemi. C'est la vision qu'il a mis dans nos yeux. Et le Seigneur, il s'avance sur les ailes du vent. Ah, voilà. Qui c'est qui se voit peur comme ça encore, compris pour lui. C'est comme ça qu'il faut que tu commences à te voir. C'est toi. Il y a ton nom sur les ailes. Vous voyez les plumes? Il y a plein de plumes. Sur chacune des plumes, il y a ton nom marqué. D'accord? Hein, Marie-Aude, il y a ton nom dessus. Tu la vois? Alléluia, Jésus. Il s'avance sur les ailes du vent. Le Seigneur, c'est un aigle. Il s'avance sur les ailes du vent. Il vole. Il a une vue perçante et il voit de loin. Et il se réjouit et il te voit. Et il te dit, monte avec moi. Viens faire partie de la volerie des aigles. Viens, viens voler avec moi. Je ne veux pas voler tout seul. Je ne veux plus voler tout seul. J'en ai assez des vols solitaires. Je veux voler en troupe. J'aime la troupe. J'aime la famille. J'aime être avec les autres. J'aime être ensemble. Je veux me rassembler avec mes autres aigles. Alors vous êtes encore peut-être dans votre nid, vous êtes peut-être même encore à terre, mais moi je vous fais entendre mon cri et je vous appelle à monter avec moi, à commencer à monter dans les courants, à voler, à déployer vos ailes et à venir m'accompagner dans mes œuvres. Je suis à l'œuvre, je travaille et je me réjouis, mais je vous veux avec moi et je vous appelle à monter. Psaume 18:10, il était monté sur un chérubin et il volait. Il était porté sur les ailes du vent. Il y a des anges qui vont venir vous porter. C'est comme un taxi. Le taxi s'arrête et tu dis, tu montes. Tu montes et tu montes avec lui. Et tu l'accompagnes et tu le suis. Et il t'apprend, il t'enseigne, il va t'enseigner ses courants. Il va t'enseigner les courants montants et ascendants et descendants. Il va t'enseigner ses directions. Et alors on ne comprendra peut-être plus rien, ça c'est vrai. C'est possible. Parce qu'on ne sait ni où il va, ni où il vient. Amen. La cantique des cantiques appelle les vents. Ils disent, viens au temps, viens Aquilon. Et c'est l'heure d'appeler les vents. Appelez les vents. Viens Aquilon, emmène-moi. Commence à me soulever dans mes ailes. Commence à souffler dans mes ailes afin que je vole, afin que je monte et que je rencontre mon Seigneur et mon Sauveur, afin que je le rencontre dans son habitat à lui. Parce que le Seigneur est venu toujours dans ton habitat, dans tes lieux où tu te trouves. Il est venu te visiter, il est venu te rencontrer. Mais il te dit maintenant, viens dans mon habitat à moi. Viens dans mon colombier, viens dans mon nid d'aigle, viens dans les lieux célestes, viens dans ma maison. C'est le moment où tu commences à me voir là où je suis moi. Pas seulement là où tu te trouves toi, je suis là aussi. Mais je voudrais que toi, tu viennes maintenant moi où je suis. Et que tu viennes là où je vais. Et que tu me suives. Vous rappelez les 144 000 et le suivre partout où il va. Que ça devienne notre habitude de le suivre partout où il va. Le fils prodigue, il est retourné à la maison du père, à son colombier. Il a commencé à comprendre qu'il était pourri là où il était, que son milieu n'allait plus pour lui, qu'il était étriqué, recroquevillé, écrasé, enfermé, et qu'il fallait qu'il commence. Il a commencé à déployer son aile. Ah, ça n'a pas été facile au début, c'est vrai. Il a dû réapprendre, mais il a retrouvé la maison du père et il a déployé ses ailes comme le fils de la maison. Ah, alléluia. Trouver la maison, la présence du père, personnelle, nourrissante, apaisante, affectueuse. Alléluia, Jésus. Alors peut-être que tu te dis que tu n'as pas d'ailes. Quand le Seigneur m'a parlé de ses ailes, c'est comme s'il me disait « je vais te donner des ailes ». Mais alors le summum, c'est quand j'ai vu le passage dans la parole. Proverbe 23, 4, 5. « Ne te fatigue pas pour acquérir des richesses, n'y applique pas ton esprit. Jetteras-tu les yeux sur ce qui vit sur elles ? Déjà, elles ne sont plus. Elles se font des ailes, les richesses. Et comme l'aigle, elles s'envolent vers les cieux. » Amen. Elles se font des ailes, elles s'envolent comme l'aigle, et elles s'envolent dans les cieux. Les richesses, c'est ce que tu fixes tes yeux sur ce qui est passager, sur ce qui pourrait t'enrichir toi, quel que soit le nom que tu mets derrière. Et quand tu veux le poursuivre, l'atteindre, et le prendre, et dire c'est à moi, ce machin, il a pris des ailes et il s'est envolé. Mais toi, tu es la vraie richesse du Seigneur. Tu es sa richesse qu'il poursuit, qu'il recherche et qu'il veut à tout prix. Et il te dit, fais-toi des ailes. Envole-toi comme l'aigle et viens vers moi. Envole-toi vers les cieux. Que les cieux deviennent ton habitat normal. Que tu commences à marcher sur tes hauteurs. Marche sur tes hauteurs comme les biches. Commence à marcher sur tes lieux élevés. Découvre la présence du Père. C'est le temps où nous sommes appelés à vivre des choses nouvelles. Alléluia. Genèse 3:8. Adam et Ève, vous savez ce qui s'est passé ? Ils ont péché et d'un coup, ils entendent la voix de l'Éternel qui se promenait dans le jardin. Et vous savez, qu'est-ce qu'il dit le texte ? Vous savez qui, je vous attends au tournant. Hein. Vous vous méfiez de moi. La version Louis II dit « au soir ». Mais dans la bise du soir. Et en fait, le terme hébreu, c'est « roar, yom », au souffle du jour, au vent du jour. Le vent du jour. Le Seigneur, il vient dans le vent du jour. Salut Adam et Ève. Et hop, il les prend et il les emmenait. Le vent du jour apportait le Seigneur. Il venait sur les ailes du vent. Il se posait à côté d'eux et il les emportait. Vous montez avec moi ? Vous venez m'accompagner dans mes mouvements, dans mes visites. Et il les emmenait au vent du jour, sur les ailes du vent. Et ils vivaient des choses extraordinaires ensemble. Et le Seigneur va s'arrêter auprès de chacun de vous. Il vient au vent du jour et il t'emporte. Et il va souffler dans tes ailes. Et il va t'emmener jusque dans sa présence. Et il va te montrer des choses qu'on n'a encore pas vues. Il va te montrer des objectifs. Il va te montrer des choses qu'il veut que tu fasses. Des choses qu'il dépose dans ta vie. Il va te parler. Il va souffler dans ta vie. Il va souffler. Alléluia. Je voudrais vous parler de quelqu'un dont les ailes avaient été coupées dans Luc 1. Luc 1. Vous connaissez Zacharie ? Kurabaraki. J'ai encore quelques minutes ? Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous vous les avons transmis, etc., il m'a semblé bon à moi aussi, après tout, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Au temps d'Hérode, il eut un sacrificateur du nom de Zacharie. Sa femme était une descendante d'Aaron, son nom était Élisabeth. Ils étaient justes devant Dieu, suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, il fallut que Zacharie, etc., il devait s'occuper du rôle de prêtre. Il était dans le temple. L'ange lui apparaît, lui fait la promesse, « T'auras un enfant. » Zacharie dit, « Comment c'est possible ? À quoi reconnaîtrais-je cela ? Je suis vieux. Ma femme est d'un âge avancé. » L'ange répondit, « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu auras un enfant. » D'ailleurs, je voudrais vous dire la promesse du Seigneur. « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'Esprit, la puissance d'Élie, pour amener le cœur des pères vers les enfants, les rebelles à la sagesse des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Quelque temps après, donc je lis un peu vers la fin, Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant « Voici, le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. » Élisabeth, Zacharie, leurs ailes étaient coupées. Ils avaient les ailes coupées. C'était des hommes, un homme et une femme de Dieu. Ils se tenaient devant Dieu dans sa présence. Mais, il y a un mais, ils n'avaient pas d'enfant. La promesse de Dieu, la promesse de la descendance, la promesse du fruit selon Dieu ne s'était pas accomplie dans leur vie. Je vous ai parlé de Tamar quelques temps. C'est un peu la même chose. Quelque chose manque dans la vie d'Élisabeth. Elle ne vit que dans la honte. Les ailes sont coupées. Elle marche un peu comme un automate. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle reste droit devant Dieu. Elle aime son Seigneur. Elle lui est fidèle. Zacharie fait son travail. Il est attaché à son Dieu. Il est attaché à son service. Mais les ailes sont coupées. Il semble comme s'ils étaient à terre. Ils tiennent encore debout. La foi est encore là. Mais il y a un doute de ce que Dieu pourrait encore faire dans leur vie. La foi générale est là et Dieu l'honore. Mais la foi ponctuelle pour un acte précis de Dieu, elle a disparu. Alléluia. Pas de descendance, pas de fruits, un ventre mort. Comme si la foi ne pouvait plus produire son fruit. Et le Seigneur dit à Élisabeth, ma fille bien-aimée, tu n'as pas eu ce que tu désirais. Tes espoirs ne se sont pas accomplis. On a coupé tes ailes. Tu te sens cloué au sol. Tu t'es résigné. Tu penses ne plus pouvoir t'envoler. Tu es trop abattu par la tristesse. Tu as l'impression que tu n'as pas de fruits, que tu ne peux rien produire de bon, qu'il n'y a en toi qu'improductivité. Je te visite et je viens enlever ta honte devant les hommes. Amen. Que cette parole touche nos vies maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que là où il y avait la mort dans le ventre, là où la mort, la foi ne pouvait plus produire son fruit, que la foi vive, qu'il y ait résurrection, que l'esprit de résurrection revisite nos vies et rafraîchisse nos vies, que les ailes repoussent, là où les ailes ont été coupées, qu'elles repoussent dans l'autorité du nom de Jésus. Dieu parle à Zacharie. Tu es à moi, je te garde à mon service. Tu te tiens devant moi, tu persévères malgré la frustration et ta détresse. Je vois ta fidélité. Je sais que tu doutes à certains moments. Il peut arriver que je doive appliquer une correction parfois pour cela. Je cherche le fruit qui abonde dans ta vie. Mais je te dis que tu verras l'accomplissement des promesses. Tu as gardé la foi et en raison de ta foi, j'œuvre dans ta vie et j'accomplis ma parole. Dans l'autorité du nom de Jésus. À tous les Zacharies, le Seigneur t'a vu. Il a vu ta foi. Il a vu ton service. Il a vu ton œuvre. Il te dit que tu marcheras dans la puissance de l'Esprit. Il te dit que ta foi produira son fruit.